Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'était un architecte mondialement connu et reconnu. Le sino-américain Yao Ming Pei est mort la nuit dernière à l'âge de 102 ans. En France, il était surtout remarqué pour la pyramide du Louvre, architecte novateur moderne. Nous y reviendrons dans un instant. Vous entendrez ensuite les arguments des uns et des autres. Après cet avis provisoire de la Haute Autorité de Santé, elle recommande de ne plus rembourser les médicaments homéopathiques. Dans ce journal encore, retour sur une réunion publique de la France Insoumise hier soir. La France Insoumise à la peine dans les sondages. Les européennes concèdent les militants, ce n'est pas la présidentielle. Et puis, quelle stratégie propose Donald Trump en matière d'immigration? Le président américain a présenté ses ambitions cette nuit, à savoir un modèle fondé sur le mérite. Dans un petit quart d'heure, nous retournerons à Cannes avec Antoine Guillot qui assiste aux projections de films en compétition pour France Culture avec Guillaume Erner et ses invités en ce vendredi matin. Et puis dans le billet politique à 8h16, Stéphane Robert ce matin évoquera la privatisation d'Aéroports de Paris. Une bombe à mèche lente pour le gouvernement, dit-il. Il avait été choisi en 1983 pour concevoir l'entrée du musée du Louvre. Yao Ming Pei a imaginé la pyramide inversée, une folie, disait-il à l'époque, pour y amener de la lumière sans occuper l'espace. L'architecte américain d'origine chinoise est décédé, nous l'avons appris cette nuit. Bonjour Cécile de Kervas-Doué.
Bonjour.
Yao Ming Pei était mondialement connu pour ses bâtiments remarquables dans le monde entier, nous y reviendrons. Mais d'abord, cette pyramide du Louvre à Paris, devenue le musée le plus fréquenté au monde, son entrée a au départ été vivement critiquée, Cécile.
Oui, pourtant, ça n'était pas la première pyramide de l'architecte, puisque Yao Ming Pei s'est fait connaître par la pyramide inversée de l'hôtel de ville de Dallas, un projet inspiré de Le Corbusier et datant de 1978. À Paris, la pyramide de verre et de métal érigée au milieu de la cour Napoléon du palais du Louvre fut vivement critiquée en France. Atrocité, ruineux gadget, mais le président François Mitterrand, à l'initiative de cette commande, tient bon et la pyramide est finalement inaugurée en 1988, et elle est devenue depuis un symbole de la ville.
Finalement, si j'ai arrêté mon choix sur Pei, ce chinois américain, c'est parce que j'avais vu à Washington et à Boston deux de ses œuvres maîtresses, un musée en particulier. Et vraiment, c'était admirable.
C'est ça, vous aviez dit c'est l'homme de la situation.
Et après une conversation, je me suis rendu compte qu'il était l'amoureux non seulement de Louvre, mais de l'histoire de la France, et que jamais il ne commettrait la faute, je dirais même le crime, de nuire à l'ensemble dans lequel nous sommes.
Ouverte au public en 1989, cette gigantesque structure a été pensée pour permettre un meilleur accueil des visiteurs. Le tour de force de Pei a été d'imaginer une entrée en sous-sol capable de relier les trois différentes ailes du Louvre par des souterrains. Le hall central, situé sous la pyramide, est baigné de lumière grâce à la structure de verre de la colossale réalisation.
Et alors nous le disions, Cécile, Yao Ming Pei était reconnu aussi et surtout par ses pairs internationalement pour ses projets audacieux.
Oui, né en 1917 à Canton, la Venise de l'Orient, près de Shanghai, Yao Ming Pei a fait ses études aux États-Unis avec un diplôme au MIT, puis à Harvard, où il est l'élève de Walter Gropius, le fondateur du mouvement Bauhaus, qui pose les bases du style international. Il n'a pas 40 ans lorsqu'il est naturalisé américain. Il crée alors sa propre agence et enchaîne les projets à succès aux États-Unis et dans le monde. Bibliothèque Kennedy à Boston, hôtel Qianchen à Pékin, National Art Gallery de Washington ou encore Banque de Chine à Hong Kong. La consécration arrive pour lui en 1983. Lorsqu'il est lauréat du prix Pritzker, considéré comme le Nobel de l'architecture. Il résume alors, avec humour, le style de son architecture.
Ça vous amuserait sans doute de savoir que dans les années 40, une maison que j'avais dessinée à Cambridge pour un ami avait été considérée comme invendable parce que trop moderne. Mais effectivement, j'appartiens à cette génération d'architectes américains inspirés par le modernisme.
À Washington, avec le National Art Gallery of Art, construit en 1978, il s'inspire par exemple de deux triangles portés par une structure de béton et de verre. Sur le parvis du bâtiment surgissent du sol des pyramides de verre éclatées, ainsi que le sommet d'une fontaine de 15 mètres de haut, enfouie sous le sol. Architecte moderne, Pei aimait à rappeler qu'il avait aussi des attaches avec le classicisme, car disait-il, une architecture qui dure doit avoir des racines.
Yao Ming Pei avait 102 ans. Merci beaucoup, Cécile de Kervas-Doué. C'est un premier pas vers le déremboursement des médicaments homéopathiques. La Haute Autorité de Santé recommande de ne plus rembourser ces granules à l'efficacité controversée. C'est un avis provisoire en raison, selon le communiqué, d'un service médical insuffisant. Dans la foulée, hier, le groupe français d'homéopathie Boiron a déjà annoncé la suspension de son cours en bourse. Mais pour François Chaste, pharmacien des hôpitaux, président honoraire de l'Académie de médecine, ce déremboursement annoncé ne met pas en péril les fabricants.
Il n'est pas question d'interdire l'homéopathie, mais il y a une doctrine en France que le financement public de la santé dans le cadre de l'assurance maladie nécessite une évaluation positive des médicaments. Il est donc légitime de procéder à un déremboursement et non à une interdiction. Les laboratoires homéopathiques ont déjà un grand nombre de médicaments qui ne sont pas remboursés parce qu'ils font de la publicité. Il y en a un en particulier dont on voit s'afficher le nom dans les abribus de France et de Navarre. Et ce médicament n'est pas remboursé et il représente une majeure partie du chiffre d'affaires du laboratoire en question. Les laboratoires sont prêts à ça.
Alors les médecins homéopathes le sont-ils, eux, prêts à ce changement? Daniel Simeka préside la Fédération française des sociétés d'homéopathie. Il se dit aujourd'hui surpris par cette recommandation de la Haute Autorité de Santé.
On ne s'y attendait pas parce que ça paraît complètement aberrant. Un Français sur deux est très attaché au traitement homéopathique. Les études montrent que les traitements homéopathiques sont efficients, les études sont suffisantes. C'est la raison pour laquelle, avec les patients, on a décidé, depuis un mois et demi à peu près, de faire une grande pétition nationale, monhoméomonchoix.fr. On a déjà presque 430 000 signatures et on compte bien demander à Madame Buzyn de ne pas appliquer cette recommandation qui, pour l'instant, est tout à fait provisoire.
L'avis définitif doit en effet être rendu le mois prochain. L'Assemblée nationale a adopté à la quasi-unanimité cette nuit le principe d'une prime de précarité pour certains CDD dans la fonction publique. Les contrats courts de moins d'un an seront concernés, tous ceux signés à partir de 2021. Les contrats courts et conclus pour faire face à un besoin saisonnier d'activité ou les contrats de projet, en revanche, sont exclus de ce dispositif. La campagne européenne maintenant, elle bat encore son plein à coups de débats, de réunions publiques. Hier, le micro de France Culture était à Rouen pour suivre la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin et la tête de liste Manon Aubry s'y sont retrouvés devant près de 800 personnes selon les organisateurs du meeting. Le trio a notamment fustigé le duel annoncé entre La République En Marche et le Rassemblement National. La France insoumise, elle, a plus de mal à imprimer une dynamique et même ses militants l'avouent, Steven Goyer.
Autour de la tribune, dans les rangs de chaises dispersées en arc de cercle, quand les chants de gilets jaunes couvrent le hall en attendant les prises de parole, les sympathisants insoumis s'installent avec parfois, comme pour Angélique, un sentiment mitigé sur le déroulé actuel de la campagne.
Je ne trouve pas que ce soit extrêmement vivant. Je les sens pas au taquet. Enfin, j'ai pas l'impression, quand c'est par exemple une présidentielle, c'est partout, c'est non-stop. Là, c'est comme s'il se passait rien.
Pascal, lui, militait déjà en 2017. Cette fois, il part avec des ambitions assez mesurées.
Quel que soit le score, si c'est 9 ou 10%, ce sera déjà, à mon avis, un très bon score. Ce n'est pas une élection pour lesquelles les Français ont une appétence particulière. À mon avis, elle n'a pas un sens politique énorme.
Pour mobiliser, à la manière de François Ruffin, les orateurs n'hésitent pas à jouer la carte du référendum anti-Macron.
On est là pour battre Macron aussi. Toute abstention, c'est voter Macron. Il compte là-dessus. Et il compte sur l'apathie politique des plus faibles. Parce que les riches, eux, ils iront voter.
Un choix pleinement assumé par la tête de liste Manon Aubry.
On s'est beaucoup fait critiquer pour avoir fait de cette élection un référendum anti-Macron. Mais on a appris que pour les élections européennes, Emmanuel Macron était pas seulement le chef d'orchestre de la majorité, il est en plus la tête d'affiche sur les affiches.
Changement de registre pour Jean-Luc Mélenchon qui préfère de son côté laisser une large part de son discours à l'un des pivots de la campagne insoumise, la question des traités européens.
Les députés qu'il faut qu'on élise, c'est ceux qui votent non aux accords de libre-échange. Non, non et non. Aucun accord de libre-échange. Zéro.
Des arguments pas forcément porteurs jusqu'ici dans les sondages d'opinion, en tout cas, où la liste plafonne à 10% des intentions de vote.
Steven Goyer à Rouen pour France Culture. Autre ambiance, autre meeting à Lyon cette fois. C'était hier soir. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve a soutenu Raphaël Glucksmann. Il a promis à la gauche d'autres victoires après celle de la tête de liste pour le PS et la place publique pour les européennes. Et il semblait, selon certains observateurs, faire un pas de plus vers un retour en politique. En bref, encore, le parquet national financier a requis hier 4 ans de prison ferme à l'encontre du député-maire Patrick Balkany, 4 ans de prison dont 2 avec sursis contre sa première adjointe à Levallois-Perret et sa femme Isabelle Balkany. 10 ans d'inéligibilité pour les deux, c'était le volet fraude fiscale du procès pour un jugement attendu le 13 septembre. La partie corruption et blanchiment sera, elle, jugée la semaine prochaine. Donald Trump veut privilégier l'immigration au mérite. Le président américain a dévoilé hier soir un vaste projet de réforme du système migratoire aux États-Unis. En plus du mur qu'il souhaite ériger sur la totalité de la frontière mexicaine, Donald Trump évoque maintenant de nouvelles conditions d'entrée sur le territoire américain, Grégory Phillips.
Dans la roseraie de la Maison-Blanche, Donald Trump présente cette vaste réforme d'un système d'immigration qu'il qualifie de dysfonctionnel et par lequel passent chaque année un peu plus d'un million de personnes. Trump veut limiter le rapprochement familial, supprimer aussi la loterie qui permet aux plus chanceux de décrocher une carte verte. Enfin, le président américain dit qu'il veut une immigration au mérite avec des critères plus élevés pour accueillir des étrangers diplômés, brillants, qualifié, s'assumant financièrement. Donald Trump propose que tous les candidats à l'immigration passent un test d'anglais et un examen de culture civique. Mais le président américain sait aussi qu'il y a très peu de chances que cette réforme soit votée par le Congrès, alors il donne rendez-vous après novembre 2020.
Et si pour des raisons politiciennes, les démocrates n'approuvaient pas cette réforme de l'immigration basée sur le mérite et qui apporte la sécurité à notre pays, alors on la présentera à nouveau immédiatement après la présidentielle de l'an prochain, quand on aura repris la Chambre des représentants, gardé le Sénat et bien sûr aussi la présidence.
Le 45e président des États-Unis espère bien que l'immigration légale et illégale occupera une place centrale dans les débats lors de la prochaine élection.
Élection de 2020, je précise. Lui se verrait bien président des États-Unis. Le maire de New York, Bill de Blasio, se lance dans la course malgré des médias hostiles et des sondages défavorables. Il est le 23e candidat démocrate. Taïwan est le premier pays asiatique à légaliser le mariage homosexuel. Son parlement a voté ce matin comme un pied de nez, hasard du calendrier, à l'homophobie. Ce 17 mai est d'ailleurs la journée internationale de lutte contre les LGBT-phobies. Et à la rédaction de France Culture, Fiona Mogadam a rencontré en France des victimes d'agressions à caractère homophobe. Ces agressions ont augmenté de 66% en 2018 par rapport à 2017, des chiffres donnés par SOS Homophobie. Cette année, les actes homophobes envers les lesbiennes ont été particulièrement nombreux, 365 agressions répertoriées. Témoignage ce matin de Célia. Elle vit à Paris, elle est régulièrement injuriée dans la rue parce que lesbienne.
Ce jour-là, j'étais seule et il se trouve que j'avais une apparence que l'on pourrait qualifier de plus masculine que la majorité des femmes peuvent avoir. Un mec me traite de sale pédé parce qu'à ce moment-là, il n'a sans doute pas le mot « gouine » qui lui vient en tête. Donc il m'insulte parce qu'il sent bien que je suis probablement pas hétérosexuelle. Je pense que c'était l'occasion de me rappeler que je ne rentrais pas dans une espèce de norme parce que quand je suis très féminine, je me fais plutôt aborder par des hommes. Ils me disent t'es jolie, donne-moi ton numéro, ce genre de choses-là. Là non, c'est clairement apparemment, enfin tu rentres pas dans cette norme-là, je vais t'insulter pour te le faire remarquer parce que ça ne me convient pas. Et donc cette personne-là, à un moment, m'a craché dessus quoi, parce que je réagissais pas. Enfin j'ai vécu ça comme un acte assez violent. Comment je m'en suis sortie? J'ai eu de la chance que mon bus arrivait, je suis rentrée, je me suis dit il aurait pu m'arriver ça. J'ai refait ma journée avec des si je lui avais répondu, je sais pas, et si j'étais partie, est-ce qu'il m'aurait suivi? Si je lui avais répondu, est-ce qu'il m'aurait collé une droite? Parce que ça m'est déjà arrivé en fait, qu'on me tape parce que je réponds ta gueule ou occupe-toi de tes affaires. Donc voilà, à ce moment-là, on se dit qu'est-ce qui peut nous arriver? À quel point ça peut aller plus loin que ça?
Homophobie quand les victimes disent stop, c'est un grand reportage de la rédaction imaginé et tourné par Fiona Mogadam. Il a été réalisé grâce à Annie Bro et sera suivi d'un débat autour d'Aurélie Kiefer, le tout à partir de 17h ce soir sur France Culture. Pour le moment, il est 8h14 et avant de terminer ce journal, un détour par Cannes. Non pas pour retrouver Guillaume Erner et ses invités, ça ce sera dans 5 grosses minutes, mais pour faire un point sur les projections d'hier avec vous, Antoine Guillot, bonjour.
Bonjour Clara.
Antoine, vous avez assisté hier à deux projections, deux films qui évoquent les grands enjeux contemporains.
Oui Clara, et avec des fortunes qu'on dira diverses. 46 ans, c'est par les deux postulants à la Palme d'Or du jour, l'anglais Ken Loach qui en a déjà deux à son actif, recordman avec 14 sélections dans cette compétition cannoise, et puis la franco-sénégalaise Mati Diop, primo accédante avec son premier film, après s'être fait déjà remarquer avec son beau moyen-métrage Mille Soleils. Tous deux s'attachent, vous l'avez dit, à représenter de grands enjeux contemporains sur fond de lutte des classes, mais à part ça, tout les sépare. Plutôt plus réussi que ses précédents mélodrames sociaux, Sorry We Missed You nous plonge dans l'enfer néo-dickensien de l'ubérisation du travail, avec cette histoire d'un couple de Newcastle, lui chauffeur-livreur à son compte, elle aide à domicile, dont la famille se désagrège à cause de la violence de la nouvelle économie. Ken Loach excelle, comme toujours, quand il s'agit d'illustrer par de cocasses et cruelles scénettes cette exploitation vieille comme le monde qui se pare de modernité et de technologie, mais aussi, comme souvent chez lui, tout se gâte quand ses personnages se mettent à parler comme des tracts militants et subissent l'inévitable et habituel martyrologue qu'exige ses scénarios. À l'inverse, Mati Diop semble réinventer sans cesse son film. De la crise migratoire, on a souvent filmé l'arrivée dans des terres hostiles mais incarnant un avenir meilleur, parfois la traversée périlleuse des mers, quasiment jamais ceux, et en l'occurrence celles qui restent. La nièce du grand cinéaste Djibril Diop Mambéty choisit, elle, dans Atlantique, de filmer ces Pénélopes modernes qu'ont laissé derrière eux de jeunes ouvriers spoliés par leur patron, promoteur d'une tour futuriste à Dakar et probablement noyé dans leur tentative de rejoindre l'Espagne en pirogue. Film social, film policier, film d'amour fou et bientôt film de fantôme, transcendé par de formidables actrices non professionnelles, Atlantique fusionne les corps et les luttes et prouve par son audace et son inventivité que les grands sujets n'interdisent pas, bien au contraire, de faire du grand cinéma.
Merci beaucoup Antoine Guillot. Nous vous retrouvons avec Guillaume Erner dans un court instant pour une matinale spéciale en direct de Cannes ce vendredi. J'ajoute que vous serez évidemment à Cannes pour votre émission Plan Large demain samedi sur France Culture de 14 à 15h. Place à la pluie ce vendredi avec une dégradation qui arrive par le sud. Pour gagner l'Île-de-France et Rhône-Alpes à la mi-journée, comptez ce matin 13 degrés à Amiens, 15 à Besançon, Lyon et Bordeaux, 16 degrés à Paris et à Nice.